Ils ont reconnu une partie de leur implication. Les frères Mérino sont passés partiellement aux aveux après le double meurtre de Julien Boumely et les Gabriel Ferchal. Ces deux amis de 25 et 26 ans, originaires de l'Aude, étaient portés disparus depuis début décembre. Leurs corps ont été retrouvés enterrés sur la propriété des deux frères. L'enquête progresse difficilement dans la disparition inquiétante de Gaël Sandral. Cet adolescent de 16 ans a quitté le domicile paternel dans la nuit de samedi à dimanche à Gap. Si les secteurs de Charence et de Glaise ont été ratissés, les recherches sont désormais réorientées. C'est un fait unique en France. Un collectif contre les compteurs Linky obtient gain de cause. La situation des personnes électro-hypersensibles sera prise en compte face à ces compteurs dits intelligents dans les Hautes-Alpes. Le SIM 05 utilisera son pouvoir de supervision. C'est un jeu de la transparence que veut jouer la municipalité de Digne-les-Bains à la veille des élections municipales. Décrié dans ses travaux du parking souterrain Gassendi par les candidats, la mairie répond et défend son utilité. Saison terminée pour Vadek Gorak, le freerider ubaïen, victime d'une chute au Canada. Par contre, lui est de retour sur planche, c'est le champion olympique et briançonné Pierre Voltier. Et donc à la une de l'actualité, double meurtre de Revest-du-Bion, les frères Mérino ont reconnu une partie de leur implication après l'homicide de Julien Boumely et Gabriel Ferchal. Ces deux amis de 25 et 26 ans originaires de l'Aude étaient portés disparus depuis le 3 décembre dernier. Leur corps avait été retrouvé enterré sur la propriété des deux frères. Quant à leur voiture, elle avait été découverte à Marseille. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un différend financier qui aurait poussé les deux suspects à tuer par arme à feu Julien et Gabriel. Une dette de plusieurs milliers d'euros pour l'achat de stupéfiants qui n'aurait jamais été remboursé par l'un des frères Mérino. Selon le procureur d'Aix-en-Provence, l'arme du crime pourrait être un fusil de chasse. Les deux frères ont été mis en examen pour homicide volontaire. Et puis l'enquête piétine après la disparition de Gaël Sandral. Cet adolescent de 16 ans, fragile psychologiquement, a fugué du domicile paternel dans la nuit de samedi à dimanche à Gap. Depuis, plus aucune nouvelle. Les recherches entreprises se focalisaient jusque-là sur les secteurs de Charence et de Glaise. Ce mineur ayant déjà été retrouvé ici lors d'une précédente fugue en avril dernier où il avait absorbé des médicaments. Mais pour le procureur de Gap, Florent Coury, rien n'atteste aujourd'hui de sa présence ce week-end dans ces lieux. Les recherches vont donc être réorientées. Écoutez-le.
On n'a aucune certitude qu'il est dans ces lieux et au regard des nombreux moyens déjà engagés, ça a été quand même passé au peigne fin. Aujourd'hui, dans ce secteur, il n'y a plus aucune recherche active et on essaie de réorienter les recherches au besoin, mais les moyens, en tous les cas, les investigations, pour l'instant, progressent très lentement puisque il faut savoir que ce jeune adolescent était parti avec son téléphone, mais son téléphone a été éteint très rapidement, ce qui n'a pas permis d'activer un relais pour le géolocaliser. Après, il y a eu une médiatisation importante de cette affaire et cette disparition. Donc, beaucoup d'appels téléphoniques ont été émis, parfois avec des personnes qui ont cru l'apercevoir, mais en réalité, lorsqu'on affine un petit peu ces témoignages, on se rend compte que ça reste assez flou pour avoir une certitude de l'avoir croisé. Maintenant aussi, il faut essayer de ne pas écarter une hypothèse d'un départ de la ville par tout moyen de transport, donc le bus, le train, pour rejoindre une grande ville. Donc c'est aussi des pistes qui vont être explorées à travers de la vidéosurveillance. Nous, on espère surtout qu'il puisse entendre les messages qui sont envoyés et que s'il est apte à retourner chez lui, il le fasse le plus rapidement.
Florent Crouy, procureur de Gap. Les pompiers des Alpes du Sud en renfort en Corse. Le groupe d'intervention Feu de Forêt a embarqué hier soir direction l'île de Beauté pour au moins 3 jours. Plusieurs incendies s'y sont déclenchés dans la nuit de lundi à mardi. 18 pompiers vont donc être mobilisés ainsi que 2 camions du SDIS 04 et 2 du SDIS 05. Je vous le disais dans les titres, c'est une première en France. La situation des personnes électro-hypersensibles sera désormais prise en compte face aux compteurs Linky dans les Hautes-Alpes. C'est une victoire pour les détracteurs de ces compteurs intelligents. Stop Linky 05 a mené une action contre le SIM 05, le syndicat d'énergie départementale qui a pour mission de contrôler le prestataire Enedis dans le département. Le collectif a ainsi mis en demeure la structure pour les pousser à utiliser dans les Hautes-Alpes leur pouvoir de supervision. Et fait unique en France, le SIM 05 a répondu favorablement, notamment en ce qui concerne la protection des personnes électro-hypersensibles. Écoutez René Faure, porte-parole du collectif.
Nous savons que des personnes qui sont déjà électrosensibles, qui sont fragilisées, quand elles ont Linky, elles souffrent davantage. Ça a été reconnu par diverses jurisprudences en 2019. C'est en suivant ces jurisprudences que le CIM 05 va dans ce sens et accède à notre demande par rapport aux personnes électrosensibles, puisque c'est le CIM 05 qui met en demeure Enedis de prendre en compte la situation des usagers électro-hypersensibles, et particulièrement concernant les usagers qui ont produit des documents médicaux établissant leur maladie, et de maintenir les compteurs électriques existants ou de remplacer par des compteurs classiques les compteurs Linky déjà posés, ou à minima d'installer des dispositifs de filtre.
En plus de cette contestation sur le plan départemental, le compteur Linky doit faire face à la mise en demeure ce mardi d'EDF et d'Engie par la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Le gendarme français de la protection des données donne 3 mois aux deux groupes d'énergie pour rectifier la manière dont ils collectent les informations personnelles des consommateurs ainsi que leur durée de conservation excessive. Une bonne nouvelle pour René Faure.
C'est ce que nous affirmons lorsque nous faisons nos réunions publiques, c'est qu'effectivement, les données personnelles ne sont pas protégées. Il y avait déjà eu des positions de la CNIL, cette fois c'était contre Direct Energy. La CNIL, si vous voulez, elle fait son travail, mais la CNIL, elle n'a pas les moyens de tout contrôler. Et on sait très bien qu'il y aura, puisque c'est le but aussi, c'est un des buts, de Enedis, puisque son président lui-même, Monsieur Mandoubou, à l'époque, puisqu'il a été remplacé, disait « Nous sommes déjà des opérateurs de big data, nous serons bientôt à la tête d'un parc de 35 millions de capteurs ». On parlait de capteurs, on parlait plus de compteurs. Donc c'est bien pour capter des données qui valent très cher.
Des propos recueillis par Christophe Laurenceau. Malgré ces différentes mises en demeure, le collectif n'est pas entièrement satisfait, notamment à cause de la problématique des pauses dites forcées des compteurs Linky. Le parking Cassindy sera-t-il l'enjeu des prochaines élections municipales à Digne-les-Bains? Démarré en septembre dernier, le chantier de ce parking souterrain oblige la municipalité à jouer aujourd'hui la carte de la transparence à l'aube des élections municipales. Certains candidats contestent en effet l'utilité de cette structure en centre-ville alors que d'autres l'ont baptisé parking inondable à chaque réunion publique. Écoutez Victor Martin, chef de projet sur la réhabilitation du parking Gassendi, il répond aux inquiétudes.
Nous avons mené des études pour ce projet pendant un an et nous sommes basés sur des expertises qui ont duré plus de 20 ans. Les entreprises ont répondu à ce marché et pour l'instant tout se passe bien, le projet avance comme nous l'avons prévu. À l'intérieur, donc, nous avons revu le système d'entrée et de sortie pour simplifier et avoir une circulation des véhicules qui soit optimisée. Nous allons rendre ce parking aussi accessible aux personnes à mobilité réduite avec la création d'un ascenseur et d'un sanitaire PMR. Nous allons créer aussi une zone de stockage vélo au rez-de-chaussée, une zone de stockage moto au R-1 et nous allons créer environ 240 places. L'ascenseur permettra aux personnes à mobilité réduite de stationner leur voiture au niveau -1 et d'accéder aux 2 places de façon sécurisée.
Victor Martin au micro alpin de Michel Bonnefoy. Au total, les travaux ont coûté 3 500 000 euros avec une aide de l'État à hauteur de 650 000 euros. L'ouverture prévisionnelle du parking est prévue pour l'automne 2020.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Et c'est donc une saison qui se termine pour le freerider basalpin Vadak Gorak. Après sa lourde chute à Kicking Horse au Canada, le skieur du Sauze a réalisé des examens hier en France. Le basalpin souffre d'une déchirure partielle du muscle jambier antérieur avec une indisponibilité de 6 semaines. C'est donc une triste nouvelle pour le freerider qui doit déclarer forfait pour le reste de la saison. L'un s'éloigne des pistes, l'autre y revient. Pierre Voltier de retour sur sa planche. Éloigné de la poudreuse depuis 7 mois, le haut alpin a enfin pu regoûter au simple plaisir de remonter sur une planche de snowboard. Hospitalisé cet été en raison de problèmes articulaires à un genou, le double champion olympique français a vécu assez mal une rééducation qui s'est éternisée et qui a totalement compromis sa saison de Coupe du Monde de snowboard cross. Il était donc de retour sur planche. Écoutez-le.
Je crois qu'on y est là. 7 mois loin des pistes, 3 mois non-stop à l'hôpital, 4 opérations au genou. Wow, et là, je suis sur les pistes à Serre Chevalier, c'est un truc de fou!
Le début de la fin d'un long chemin de croix que le Briançonnais vit comme une délivrance avec un objectif en ligne de mire, un 3e titre olympique à Pékin en 2022. Un mot de ski de fond, 4 alpins sélectionnés pour les championnats du monde junior et U23, organisés du 26 février au 7 mars à Oberwiesenthal en Allemagne. Cette compétition verra la participation de 3 fondeurs locaux dans la catégorie junior, Maël Vert et Florian Pérez, tous deux pensionnaires du ski club de Montgenèvre, ainsi que Mathieu Goalabre du ski club Kera, puis en U23, Flora Dolci qui a déjà participé à des manches de Coupe du Monde avec les seniors cette saison. Ligue Magnus et les Rapaces de Gap peuvent toujours croire aux play-offs de hockey sur glace après leur victoire hier soir. Actuellement 8e, les Hauts-Alpins l'ont emporté 3-2 sur la glace des Pionniers de Chamonix, 7e avec seulement 2 petits points d'avance désormais. Après avoir raté le début de match en prenant 2 buts d'affilée, les Hauts-Alpins ont réussi à revenir à la marque dès la première période grâce à 2 réalisations de Mathieu Gagnon et Artus Mikiewicz. Et c'est finalement en prolongation que Mathieu Gartin a offert la victoire aux Gapensais. Dans le même temps, les Diables Rouges de Briançon auraient pu donner un gros coup de main à leurs voisins alpins, mais l'Ormadie d'Anglette a été plus forte et a réussi à l'emporter 2-1 sur la patinoire René Froger. Une victoire qui permet au 9e du championnat de revenir à 1 point des Rapaces de Gap. Toujours en hockey, des étoiles plein les yeux pour les jeunes Rapaces de Gap. L'Accor Hotel Arena à Paris accueille une nouvelle édition du festival des Petites Crosses. Ce sera ce samedi et ce dimanche. 478 jeunes joueurs de 7 et 8 ans de toute la France vont venir participer à un tournoi de hockey. Les jeunes Rapaces de Gap seront bien sûr de la partie. Éric Roper, directeur général de la Fédération française de hockey sur glace, explique l'objectif de cet événement.
L'idée, c'est de les faire rêver, leur donner des ambitions, peut-être de revenir en tant que joueur ou joueuse plus tard dans cette salle, et puis aussi de montrer aux gens qui viennent voir le match, la finale, que le hockey, c'est pas seulement la finale elle-même, mais c'est aussi toute une vivacité. Il se passe plein de choses. On est un sport en développement. On est un sport par rapport aux autres sports collectifs du fait du nombre de patinoires en France, où il y a un nombre de licenciés relativement limité, en développement mais limité. Nous sommes à un peu plus de 22 000 aujourd'hui. Ça permet aussi de montrer que le hockey français est un sport qui bouge et où il y a plein d'enfants qui pratiquent.
Et depuis 2007, la finale de la Coupe de France de hockey se joue à Paris. Elle rassemble de plus en plus de passionnés comme les jeunes Rapaces de Gap.
On voit qu'il y a un vrai engouement, il y a du monde dans la patinoire, on connaît l'historique du hockey à Gap, et je trouve que c'est un bel effort, hein, parce que voilà, Gap fait partie des clubs pour lesquels venir à Paris, c'est quand même pas simple, c'est un effort. Et donc le club s'organise, les parents s'organisent pour venir participer, pour que les enfants participent à la fête. Donc c'est assez symbolique et assez magique de voir tous ces enfants, garçons ici, avec le maillot de leur club, des clubs de toute la France. Venir de Gap pour un enfant de 7 ans, 8 ans avec ses parents ou son club montre bien que notre sport est un sport de passionnés.
Des propos recueillis par Damien Denis. Samedi et dimanche matin, plusieurs matchs de hockey sur glace seront organisés. Puis les jeunes Rapaces de Gap vont pouvoir vivre au plus près la finale de la Coupe de France entre les Dragons de Rouen et les Gothiques d'Amiens après s'être adonné un tour d'honneur devant plus de 13 000 personnes.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.